This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier, réalisée par Bruno Bertrand. Deuxième épisode de cette année 1958 qui voit donc le retour au pouvoir d'un homme, le général de Gaulle, parti en 1946, et de retour cette année-là, avec une nouvelle république dans sa poche. Dans le précédent épisode, nous avons vu les conditions assez troubles de ce retour, entre légalité et coup d'État, quoi qu'en dise le général lui-même. Son retour fut, quoi qu'il en soit, un coup de force.
François Mitterrand était auteur d'un livre qui s'appelait « Le coup d'État permanent » qui, dans la tradition de gauche très critique, très réservée à l'égard du pouvoir exécutif, voyait d'un très mauvais œil en fait la constitution de la Ve République qui s'est quand même fondée sur un coup d'État militaire, oui. Disons-le, puisque oui. Maintenant on le sait, puisqu'on le tient de la bouche des gens qui faisaient partie du complot, que des parachutistes ont été lancés quoi, au-dessus de Colombey-les-Deux-Églises pour escorter De Gaulle jusqu'à Paris,
oui.
Et que Mitterrand justement était un des seuls, alors qu'il était un des leaders de l'opposition, un des seuls membres de partis politiques qui avait été convoqué par De Gaulle pour en fait en recevoir les pleins pouvoirs d'une certaine manière, à s'élever contre cela. Il a d'ailleurs maquillé, De Gaulle s'est arrangé pour maquiller le fait pour que ça ne ressemble pas à la prise de pouvoir de 1940 par le maréchal Pétain, alors que évidemment aujourd'hui tous les profs de droit savent et enseignent que la manœuvre était tout de même très semblable, c'est-à-dire aller chercher le vainqueur de la dernière guerre pour aller chercher une légitimité extra-parlementaire.
Un militaire. D'un militaire dans les deux cas.
Voilà, une discussion entre Roland Dumas et la rédaction de France Inter à l'occasion de la sortie d'un livre de Roland Dumas sur des coups et des blessures, je crois, avec 50 ans de vie commune avec François Mitterrand. Donc Roland Dumas présentait son livre et à cette occasion, on entend donc cet aveu de la part des journalistes de la présence de ce qui a été un coup d'État. Alors, coup d'État arrangé, mais en fait, qui établit un parallèle assez amusant sur le plan historique entre le maréchal Pétain, ennemi juré du général de Gaulle, et dont il a emprunté la même technique pour revenir au pouvoir. Alors, comme toujours en pareil cas, un exécutif fort, avec un ascendant moral sur le peuple, on l'a vu dans le précédent épisode, la période qui débute va conjuguer modernisation économique à travers une consommation envahissante et un ordre moral étroit. Rappelons qu'il existait un ministère de l'information, comme si l'information avait besoin d'être gérée, et également que jusque dans les années 70, presque, 68 en tout cas, il y avait une commission de censure et je rappellerai simplement que le film de Jacques Rivette, intitulé « La religieuse », Suzanne Simonin, la religieuse, qui a été réalisé en 62, a donc bénéficié d'une interdiction totale. Quand on sait aujourd'hui l'état du cinéma, disons, outre interdiction, ça fait sourire. Mais ce film a donc été interdit et il a fallu 3 ans de bataille pour que le film tiré d'un roman de Denis Diderot, un des encyclopédistes adapté donc par Jacques Rivette, puisse enfin sortir avec une interdiction au moins de 18 ans. Alors ça concerne une bonne sœur, donc évidemment on dit que la Madame de Gaulle est intervenue personnellement pour que le film ne puisse pas sortir et donc il a fallu de nombreuses batailles juridiques pour parvenir à sa sortie. Eh bien cette consommation envahissante et cet ordre moral très étroit eh bien, conduira 10 ans plus tard, pile, à mai 68. Cette année-là, donc 1958, eh bien, il est un musicien qui est déjà chevronné, mais qui est en direct à Newport et qui a invité avec son orchestre le musicien Jerry Mulligan.
And now, a little more extra at this time.
Are we going for a little choreography? We move Harry Connie out here because he is going to be joined by a very, very, very famous guest. The title of this number may suggest or give you an idea about just what's going to happen. The title of the number is Prima Barra Dubla. Ladies and gentlemen, Jerry Mulligan. Jerry Mulligan is going to be our house guest for a few minutes.
Thank you.
Prima Barra Dubla, une composition de Duke Ellington et Billy Strayhorn, enregistrée le 7 mars 1958. Et on entend les deux merveilleux saxophones baryton, Jerry Mulligan l'invité, et Harry Carney, le baryton titre de l'orchestre d'Ellington. Alors la nouvelle constitution en France aura des conséquences sur l'ensemble des anciennes colonies de l'Union française, car dans cette nouvelle constitution, l'alternative que va offrir la France, ce sera soit l'indépendance, soit l'autonomie dans le cadre de ce que l'on appellera la communauté française. Alors, on peut remarquer que ce ne sera pas le cas, l'offre ne sera pas faite pour l'Algérie, où on est en guerre à ce moment-là, et où l'armée compte 800 000 soldats en 1958, tous, presque tous des appelés du contingent. Lors de sa tournée en Ours en août 1950, le général de Gaulle fait campagne pour le maintien de ses colonies dans la communauté.
À l'atmosphère d'espoir et de gravité qui avait accueilli à Madagascar le général de Gaulle, répondait l'enthousiasme débordant qui le saluait à son arrivée à Brazzaville. Brazzaville reste pour le premier résistant de France un grand souvenir. C'est ce qu'évoquait son geste devant la statue du gouverneur Félix Éboué, qui rallia dès 1940 le Congo à la France libre. Lui, le président du Conseil, a retrouvé pour quelques heures la case de Gaulle, qu'il abrita aux temps héroïques et qui, depuis, porte son nom. Plus tard, enfin, en présence de milliers de personnes, le général a de nouveau exposé les principes de la future communauté à laquelle chacun des peuples qui composaient hier l'Afrique française pourra ou non adhérer en recevant la responsabilité entière de se gouverner lui-même. Autonomie et communauté française ou sécession. Mais Brazzaville a déjà répondu.
Alors c'est une tournée presque triomphale que fait le général jusqu'à l'arrivée en Guinée, où là, le général va prendre littéralement une claque. Ahmed Sékou Touré, maire de Conakry et leader des forces d'opposition à la France, va exprimer devant le président son refus de l'association et son choix total pour l'indépendance.
Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. L'ensemble des participants résolus et conscients à une évolution politique en Afrique noire, actuellement engagée dans le grand mouvement d'émancipation qui exige la disparition totale du phénomène colonial et l'établissement d'une ère de liberté vraie, d'égalité et de fraternité additionnelle.
Héros panafricain pour les uns, tyran sanguinaire pour les autres. Sékou Touré, le père de l'indépendance de la Guinée, continue plusieurs décennies après sa mort de déchaîner autant de passion que de haine. Pour tous, il est l'homme qui un jour a dit non au général de Gaulle au sommet de sa notoriété. Les étudiants africains des années 60 gardent également en mémoire sa farouche détermination dans sa lutte pour l'autonomie totale et immédiate de l'Afrique.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. pour l'unité et l'émancipation de l'Afrique. Vive la Guinée, vive la France.
Quand ce matin d'août 58, dans le petit palais du gouverneur de Conakry, Sékou Touré tient son discours devant une foule en délire, son principal interlocuteur, le général de Gaulle, visiblement mal à l'aise, n'en croit pas ses oreilles. Sékou Touré n'a pas mâché ses mots. « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. » Le général de Gaulle est arrivé à Conakry depuis quelques heures seulement. Une des étapes d'une longue campagne dans les pays membres de l'Union française pour le « oui ». Un « oui » à la communauté franco-africaine qui sera soumise à référendum le 28 septembre de cette même année et qui propose aux territoires colonisés sur le point d'être autonomes la collaboration avec la France. L'homme du 18 juin, sûr de lui, mal préparé à ce pays et à la personnalité de son leader, ne s'attend pas à un tel camouflet. Quand il prend la parole, la rupture est déjà consommée.
La question entre nous, Africains et métropolitains, elle est uniquement de savoir si nous voulons, les uns et les autres, pratiquer ensemble, pour une durée que je ne détermine pas, une communauté. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre. Elle peut la prendre le 28 septembre. En disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra.
Le lendemain de cette journée mémorable où l'idée de communauté a été rejetée par Sékou Touré et ses partisans, le général de Gaulle, au pied de l'avion, souhaitera à Sékou Touré bonne chance. Le 28 septembre 1958, la Guinée vote massivement non au référendum. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, la jeune République de Guinée, derrière son téméraire leader, prend brutalement, sans préparation, son envol. C'est l'indépendance, la première d'un pays issu de la communauté française d'Afrique. Cet orgueilleux non à la communauté, balancé à la face du général de Gaulle à Conakry, ce 26 août 1958, Sékou Touré va le payer cher, très cher. De Gaulle va lui couper tous les vivres. C'est le début d'une brouille qui va durer longtemps avec la France. Sékou Touré n'avait pas prévu la mesure de la réaction du général. Pourtant, il ne regrettera pas son geste.
Alors en fait, ce que le général propose aux anciens territoires africains de la France, ça n'est pas moins que deux mauvaises solutions, et qui consistent soit à prendre son indépendance et ne plus avoir aucune ressource, comme ce fut le cas pour la Guinée, soit choisir la méthode douce, comme ce fut le cas pour le Congo-Brazzaville, et à ce moment-là, voir maintenir à sa direction des gens peu fiables et qui, en tout cas, n'ont pas joué la carte du développement, mais plutôt la carte de leur intérêt personnel. Et pour la France, évidemment, de garder la maîtrise des décisions économiques avec une présence très forte des grandes sociétés. C'est d'ailleurs le président Massemba Déba du Congo-Brazzaville qui analyse de façon très pertinente le résultat de cette décolonisation en douceur.
C'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent aux... non pas aux Congolais, mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise. Mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela. Mais il n'y a même pas un franc congolais dedans. Ou tout au moins un franc qui appartienne aux Congolais dedans. Et ce qui fait que le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial. Si en France, tout ce qu'il y a comme magasin, comme usine, comme société, appartiennent soit à des Anglais, à des gens extérieurs, et que le peuple français n'est pas absolument du tout quoi que ce soit sur ce circuit économique, quelle serait à peu près la réaction du peuple français? Si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander.
Voilà, alors qu'instaure la Ve République comme relation avec ses anciennes colonies? Eh bien, elle instaure un néocolonialisme. L'État français se retire en tant que tel, en laissant les services publics en déshérence et laisse libre cours aux investisseurs privés, tout en gardant la main sur des dirigeants par fantoche interposée. L'Afrique sera mise en coupe réglée par les grandes entreprises minières et pétrolières, tandis que les gouvernements français successifs vont soutenir des dictateurs qui viendront s'incliner à Paris tout en exploitant leur propre peuple. C'est ce que l'on a appelé la Francafrique. Alors, lire fric avec Q-U-E et fric avec un C. Cette Francafrique commence donc dès ce moment-là. Et elle ira jusqu'à François Mitterrand. Les présidents français vont recevoir tous les, entre guillemets, rois nègres, comme on les appelait, qui maintiendront l'Afrique dans un sous-développement chronique. Et les simples noms d'Omar Bongo, de Bokassa, d'Oufred Boigny, de Sassou Nguesso et beaucoup d'autres évoquent scandale et exaction.
De Gaulle, enfin tacticien, en bon colonialiste, parce que la France, comme je le dis souvent, c'est un pays, chromosomiquement ou bien consultantiellement colonialiste, parce que la France dit toujours, vous entendez toujours les Français, notre pays a vocation, les valeurs de la France sont des valeurs universelles, la France est un pays à vocation universelle, etc. Les Français donnent des leçons dans tout le monde entier. Un pays qui fonctionne comme ça, ça veut dire que c'est un pays consultantiellement colonialiste. Donc, De Gaulle va dire tout simplement, écoutez, pour éviter que le cas de la Guinée ne fasse tache d'huile, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver des gens dans les différents pays africains à qui on va octroyer un certain nombre de parcelles de pouvoir en disant tout simplement avoir l'indépendance. C'est ainsi qu'on a vu des gens comme Senghor, Efou Boigny, Aïdjo, voilà, on va trouver des hommes de main. Hein, à qui on va confier les clés de la maison, de sorte que voilà, la colonisation puisse tout simplement continuer. Bon, maintenant, nous sommes en plein dedans. Maintenant, on est en indépendance, et avec les années 60. Qu'est-ce qui va se faire? Tous ceux qui se sont inscrits dans une dynamique véritablement indépendantiste seront assassinés. On va les assassiner tout simplement. Donc, ça part de quel pays? Du Togo. On va assassiner Sylvain Olympio en 1963. On va assassiner Lumumba. On va assassiner plein d'autres. On va tous les liquider pour éviter tout simplement que l'Afrique ne soit ou bien n'aille dans cette logique d'indépendance, de sorte que l'Afrique ou les richesses de l'Afrique puissent véritablement profiter aux Africains. Parce que l'enjeu réel, c'est ça. C'est la question des richesses. C'est la question des richesses de l'Afrique. Donc, la question qui se posait, c'était de savoir, à qui doivent profiter les richesses de l'Afrique. Donc, puisque les pays occidentaux n'étaient pas dans une dynamique d'affranchissement des pays africains, on va tout simplement assassiner tous les leaders et on va les remplacer par des hommes de main. Donc, au Togo, on va imposer, et Adama Niasingbe, qui avait fait la guerre en Algérie contre l'indépendance de l'Algérie, on va imposer des gens comme Biya, c'est tous ces gars qu'on voit aujourd'hui. Ouais, les Bokassa, tout ça en Centrafrique, tout ça, on va les imposer. On va imposer également au Tchad, Hissène Habré, on va imposer tous ces gens. Hein. Au Bénin, on va aussi mettre des gens comme Kérékou et tout ça. Pour que, bon, voilà, c'est toujours, on va entretenir cette clientèle pour maintenir l'Afrique dans sa position de pays ou bien de continent tout à fait soumis. Les dictateurs qui sont placés vont maintenant, d'une certaine manière, réécrire l'histoire. Et on va dire, oui, les indépendances ont été accordées par la bienveillance de la France. Voilà, c'est un pays qui a accepté de libérer l'Afrique. On va salir la mémoire, profaner la mémoire des pères des indépendances. On va même gommer leur nom.
Voilà, ainsi conclut l'Université populaire africaine en 1962 à Genève, en affirmant clairement à quel point ce néocolonialisme a traversé, a entravé le développement des anciennes colonies et continue à le faire malheureusement. Retrouvons Duke Ellington à Newport en 1958 avec un numéro de son batteur, son drummer, Sam Woodyard.
We have a little thing called Jazz Festival Jazz. Jazz Festival Jazz. Thank you.
Et oui, c'est un déchirement, mais c'est ainsi. Nous allons laisser Sam Audiard, le poumon de cet orchestre Duke Ellington, en 1958 à Festival Newport, et vous donner rendez-vous à un prochain épisode, mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.